Bonjour Bruno Leroux.
Bonjour.
François Hollande a dévoilé hier le projet de réforme territoriale. Le nombre de régions passerait de 22 à 14. Un découpage qui mécontente de nombreux élus locaux, de droite comme de gauche. D'ailleurs, quelle est la logique qui a prévalu selon vous ?
Des régions qui aient une taille qui leur permettent de mieux s'organiser, d'avoir des politiques plus cohérentes, et notamment des politiques de développement, des politiques de recherche de croissance, des politiques de services rendus à nos concitoyens. Et tout ça, c'est important. Nos régions, quand on les regarde aujourd'hui, quand on les compare aux grandes régions européennes, elles étaient toutes petites, elles étaient le fruit d'un découpage qui était d'un découpage déjà ancien, trop ancien, qui ne tenait plus compte aujourd'hui des regroupements qui se sont opérés, et puis aussi de la façon dont l'Europe s'est organisée. Et donc, c'est les régions, et chaque président de région le reconnaît. D'ailleurs, chaque président de région dit depuis maintenant des années, on avait noué des liens de coopération avec les régions. D'un côté, aucune région n'a été sans nouer de liens de coopération. Bien aujourd'hui, nous allons plus loin dans les coopérations et plus loin dans l'efficacité du service qui va être rendu aux Français.
Mais le sentiment qu'ont un certain nombre d'élus locaux, c'est que le président de la République a dessiné tout seul sa carte de France dans son bureau, sans grande concertation.
Et c'est une vue de l'esprit, c'est pas parce qu'il y a quelques mécontentements. Et d'ailleurs,
très
peu de mécontentements. Quand je regarde aujourd'hui, il y a deux endroits sur la carte sur lesquels il y a des mécontentements. Pour le reste, il y a des interrogations, des volontés quelquefois dans le débat parlementaire de bouger, mais une carte de France qui a plutôt été bien reçue. Comment imagineriez-vous qu'on fasse sur un coin de table une carte de réforme administrative profonde de nos territoires et de nos régions ? Bien entendu que tout le monde a quelque chose à dire sur cette question, mais elle a été posée après une longue concertation et après que le président de la République ait tranché. On lui demande de trancher, on lui reproche de ne pas trancher assez, et quand il tranche une carte avec cohérence, on dit il l'a fait tout seul sur un coin de table.
Ça a été difficile, puisque à 20h, la presse régionale qui attendait la tribune du président de la République avait une version dans laquelle le chiffre du nombre de régions à venir n'était toujours pas indiqué. Donc ça a été tranché à la dernière minute. Il y a eu des négociations âpres, et on sait par exemple que Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense, le Breton, a défendu l'idée que la Bretagne ne soit pas rattachée à quoi que ce soit d'autre.
Chacun a fait valoir, c'est bien la marque qu'il y a eu une discussion, une concertation. Et quand l'on tranche un problème, c'est bien que dans les minutes qui le précèdent, il y a encore des choses à trancher. Voilà, donc pourquoi se plaint-on du fait qu'il y a eu des débats ? Oui, il y a eu des débats. Y aurait-il pu y avoir une carte différente ? Oui, il y aurait pu y avoir une carte différente.
Et pourra-t-il y avoir une carte différente ?
Oui, si les régions en marquent la volonté. Je prends l'exemple aujourd'hui de la région Pays de Loire et de la région Bretagne qui fait débat. Elles auraient pu être toutes les deux regroupées. Une région ne l'a pas souhaité. La région Bretagne. Il faudra demain que les deux régions le souhaitent et donc qu'elles continuent à discuter pour que nous puissions aller plus loin dans le débat parlementaire. Et pour autant, quand j'entends aujourd'hui « Non, nous on est prêts à prendre un département ici, mais pas toute la région », il n'y aura pas de démantèlement des régions telles qu'elles existent aujourd'hui.
Alors si la logique c'est de créer de grandes régions puissantes, pourquoi y a-t-il d'immenses régions ? Par exemple, la nouvelle qui serait constituée du centre, plus Poitou-Charentes, plus Limousin et d'autres auxquels on ne touche pas et qui resteront donc de petites régions, par exemple le Nord-Pas-de-Calais.
Ce n'est pas simplement affaire
si on regarde la carte, c'est assez frappant.
Bien sûr, mais ce n'est pas simplement affaire de kilomètres carrés, tout cela, c'est affaire de population, c'est affaire de croissance, de capacité de croissance, de force économique. Et donc, il y a des territoires qui sont des territoires qui, aujourd'hui, étaient déjà totalement cohérents et devaient être préservés, et certains qui devaient être regroupés pour additionner les forces. Et d'ailleurs, ce que j'entends de la part des trois présidents de régions qui vont fermer la grande région centre, c'est plutôt aujourd'hui un acquiescement de dire que se regrouper, c'est aller plus loin sur les coopérations qu'ils ont déjà mis en place toutes ces dernières années et forcément avoir plus de force dans une position totalement centrale dans notre pays.
Dans le fait de laisser le Nord-Pas-de-Calais seul, il n'y a aucune arrière-pensée politique liée à l'implantation locale du Front National.
Il faut combattre le Front National et
C'est un moyen de combattre évitant par exemple de rapprocher Nord-Pas-de-Calais, Picardie et donc peut-être d'offrir entre guillemets une grande région régional de 2015.
En tout cas, combattre le Front National, c'est offrir un meilleur service et toujours un meilleur service à la population et ne pas donner d'opportunité au Front National de casser les dynamiques territoriales qui se mettent aujourd'hui en œuvre.
Donc cette décision-là relève ou participe du combat contre le Front National ?
Non, elle relève d'une région qui aujourd'hui avait besoin de pouvoir très très vite se mettre en mouvement sur les structures qui sont celles qu'elle connaît aujourd'hui pour mener la bataille contre une implantation du Front National qui a eu lieu sur les élections municipales et qui doit être combattue par tous les Républicains.
Donc la question du Front National est intervenue ou pas dans cette décision ?
Non.
Mais elle était dans les esprits ?
Mais elle est forcément dans les esprits. Au moment où l'on veut assurer un meilleur service à la population, on n'accepte pas l'idée qu'il pourrait y avoir une destruction de ce service public par le Front National.
Quelles économies seraient réalisées grâce à cette réforme ?
Ce n'est pas le premier motif.
C'était l'un des arguments avancés au départ aussi.
C'est une conséquence. C'est une conséquence et moi je veux que les choses soient très claires sur ce dossier. Quand on bâtit l'avenir de l'organisation territoriale d'un pays, ce n'est pas par souci d'économie, c'est par souci d'efficacité. C'est par souci de modernisation de l'action publique, et notamment de l'action publique territoriale. Qu'il y ait des économies, je le souhaite, et personne ne comprendrait qu'il n'y en ait pas derrière. Quand on va regrouper les structures, quand on va faire des économies d'échelle, quand on va ne plus doubler les compétences, cela devra générer des économies. Et pour autant, ce ne doit pas être l'entrée dans ce débat. Il est bien plus fort, il est bien plus important pour notre pays qu'un débat d'économie budgétaire.
Le numéro 2 du MEDEF, Geoffroy Roux-de-Bézieux, ce matin dans le Figaro, dénonce un harcèlement fiscal jamais vu contre les entreprises et il menace de ne plus soutenir le pacte de responsabilité. Il dit d'ailleurs que l'annonce des baisses d'impôts est une supercherie. Est-ce que c'est inquiétant, ce discours du MEDEF ?
Ces patrons qui remettent toujours en cause le souci qui est le souci de compétitivité du gouvernement, on commence à en avoir assez. On commence à en avoir assez de ce syndicat des patrons qui est toujours en train de se plaindre, alors que sur le terrain, les chefs d'entreprise sont en train de voir arriver aujourd'hui, très concrètement, une mesure qui pourtant a commencé le 1er janvier 2013, le CICE, et disent « Tiens, c'est en train de changer ». Ils sont en train aujourd'hui de regarder la façon dont nous préparons le plan de finances rectificatives avec des mesures qui sont des mesures sans attendre sur la compétitivité. Alors ces patrons qui ont des jeux de territoire entre eux, Monsieur Gattaz, Monsieur Roux-de-Bézieux, à savoir celui qui discutera en coulisses le mieux, mais qui fera la déclaration la plus anti-gouvernementale, la plus anti-socialiste, on commence à en avoir assez. Que les patrons aujourd'hui reconnaissent, en tout cas, ou ne le reconnaissent pas, mais il y a un effort qui est sans précédent fait pour la compétitivité, qui pose d'ailleurs un certain nombre de questions, qui pose un certain nombre de problèmes dans mon groupe sur l'équilibre qui peut être donné. Je le défends parce que c'est l'emploi qui est en jeu. Mais l'emploi, ça ne pourra marcher demain que s'il y a des patrons qui reconnaissent aujourd'hui que les choses sont différentes de celles qui étaient faites auparavant. Et les entendre geindre comme ça tout le temps, il commence à y en avoir assez.
Et ce genre de discours du numéro 2 du MEDEF peut renforcer justement l'aile gauche du PS qui est hostile au pacte de responsabilité ?
Mais en même temps, ça peut remettre en cause, bien entendu, le pacte de responsabilité. Mais tout le monde, aujourd'hui, ce pacte de responsabilité...
Quand vous dites que ça peut le remettre en cause, c'est-à-dire que le gouvernement pourrait dire « vous commencez à nous fatiguer ».
Écoutez, j'ai entendu les syndicats d'abord dire cela. Ouais. Le principal syndicat qui a signé la CFDT ce week-end, j'ai entendu Laurent Berger, en tout cas j'ai lu Laurent Berger, dire que ça ne pouvait pas continuer comme ça et qu'il fallait que le patronat arrête de tergiverser. Moi, je le dis aussi aujourd'hui, nous avons un objectif. Nous voulons nous appuyer sur les entreprises pour faire repartir la croissance et l'emploi. C'est quand même une démarche de confiance, c'est quand même une démarche nouvelle dans le sens où, pour la gauche, elle peut être nouvelle, mais elle n'était même pas menée auparavant par la droite, cet acte de confiance dans nos entreprises. Et avoir un patronat aujourd'hui qui n'est absolument pas à la hauteur de l'enjeu, c'est un problème pour le pays.
En un mot, très rapidement, Vladimir Poutine sera reçu demain à l'Élysée par François Hollande. Quel langage le président de la République doit-il lui tenir ?
Mais le langage qu'il tient sur la scène internationale depuis le début, c'est-à-dire un langage clair, un langage qui permette de dire aujourd'hui que ce qui se passe en Ukraine, aux portes de l'Europe, n'est pas acceptable, qu'il y a eu des ingérences, qu'il y a eu un certain nombre de scrutins qui ne peuvent pas être reconnus, un certain nombre de choses illégales qui n'ont pas, et donc qu'il aura un langage de vérité avec M. Poutine.
Merci Bruno Leroux.
Merci.
Bonne journée.